Bretagne. Il a obtenu son doctorat à l'université de Cambridge avant d'aller aux États-Unis au tournant des années 70, où là, il va changer dans l'orientation de ses recherches et prendre un tour clairement marxiste. Il va publier une série d'ouvrages dont peut-être le plus imposant est celui qui s'intitule « The Limits to Capital », qui est une interprétation de l'œuvre de Marx et auquel il rajoute une série de développements tout à fait importants sur la dimension spatiale de la dynamique du capitalisme. Et c'est peut-être là son apport théorique le plus important. Il publiera également en 89 un ouvrage sur le postmodernisme, où il critique les thèses et les arguments postmodernes. Il a aussi enseigné longuement le Capital, et vous pouvez trouver en ligne des vidéos qui reprennent ces cours de lecture du Capital. Voilà, son dernier ouvrage est publié cette année, s'intitule « Rebel Cities, From the Right to the City to the Urban Revolution ». Alors, Harvey, c'est donc un intellectuel de premier plan, marxiste, mais c'est également une figure militante, puisqu'il a participé à plusieurs forums sociaux, en particulier en 2010, il était à Porto Alegre, où il a fait une intervention intitulée « Organiser la transition anticapitaliste », qui s'achevait par ce slogan « Un autre communisme est possible ». Donc, on voit, c'est quelqu'un qui essaye vraiment de faire le lien entre ses recherches et les développements des luttes. Alors, le concept d'accumulation par dépossession, dont il va être question maintenant, apparaît au début des années 2000. Il est exposé longuement dans un ouvrage qui a été traduit l'an dernier aux Prairies Ordinaires, qui s'appelle « Le nouvel impérialisme ». Il est en bibliographie, je peux le faire circuler si vous le souhaitez. Et il est également repris dans un autre ouvrage plus récent, 2006, qui s'appelle « Spaces of Global Capitalism ». C'est un concept qui a soulevé pas mal de débats. Alors, je ne vais pas couvrir l'ensemble de ces débats, bien évidemment, mais notamment des débats vis-à-vis d'autres auteurs marxistes en économie. C'est plutôt à ceux-là que je vais m'intéresser. Des gens comme Robert Brenner, Ellen Mayskinswood, Ben Fine ont discuté dans un numéro spécial de la revue Historical Materialism cette thèse, les thèses développées dans le nouvel impérialisme et singulièrement le concept d'accumulation par dépossession. Alors, pour commencer sur ce concept, il faut insister sur le contexte dans lequel il intervient. L'apparition du concept, c'est le début des années 2000, et il y a trois principaux éléments de la conjoncture économique historique qui sont marquants. D'abord, c'est un regain d'agressivité de l'impérialisme, avec les guerres d'agression menées par l'administration Bush, en particulier en Irak. Deuxièmement, on entre dans la troisième décennie des offensives des politiques néolibérales, avec des politiques qui sont généralisées à l'ensemble de la planète, mais avec également une série de crises de plus en plus marquées, puisque les années 90 voient en particulier la crise asiatique, la crise russe, la crise argentine, et puis au début des années 2000, la bulle Internet. Et puis enfin, troisième élément de conjoncture, l'essor du mouvement altermondialiste, qui est un mouvement en gestation qui semble renouveler profondément les luttes, mais auquel fait défaut une doctrine, une interprétation peut-être du monde. Et c'est en partie à ces trois éléments, regain de l'impérialisme d'une part, deuxièmement généralisation des politiques néolibérales, et troisièmement émergence du mouvement altermondialiste, que Harvey essaie de répondre. Et le concept d'accumulation par dépossession se situe vraiment dans cette perspective-là. Donc, on le voit, pour Harvey, la réflexion n'est pas simplement théorique. Il ne s'agit pas, pour paraphraser Marx, il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, mais de le transformer. Et donc, il va poser une série de questions de stratégie politique. Donc, il affirme ainsi, les auteurs marxistes ont non seulement une obligation de rigueur scientifique, mais aussi de communicabilité. Et c'est un des éléments qui va répondre aux critiques qu'il va recevoir sur le concept d'accumulation par dépossession. Il affirme la chose suivante. Les personnes qui ne connaissent rien à la théorie marxienne sentent immédiatement ce que je veux dire. J'ai juste à mentionner les droits à la retraite, l'utilisation illégitime des propriétés publiques, la privatisation de l'eau, la suppression du crédit, les pertes des droits à l'assurance maladie, pour que la plupart des gens s'assoient et écoutent. Donc voilà, on voit bien son souci, qui est de trouver des concepts qui soient opérants, qui résonnent dans les existences de ses contemporains et qui soient des outils pour les luttes. Alors, le succès du concept est ainsi lié au fait qu'il permet de saisir intuitivement le caractère prédateur et régressif de la dynamique du capitalisme contemporain. Cependant, et on va le voir, sur le plan théorique, il demeure par certains aspects assez confus, très large, très général. Et l'objectif de cet exposé va être, dans la mesure du possible, d'essayer de clarifier ce concept et également de préciser les enjeux politiques auxquels il est associé. Alors, je vais organiser l'exposé en quatre temps. D'abord, une présentation du concept d'accumulation par dépossession dans les écrits de Harvey lui-même. Ensuite, essayer de voir d'où il vient ce concept, hein, en remontant rapidement à Marx et à Rosa Luxembourg, au concept d'accumulation primitive chez Marx et à la conception de l'impérialisme de Rosa Luxembourg. Ensuite, je présenterai les principales critiques qui ont été adressées à ce concept et j'essaierai d'introduire des pistes sur les enjeux politiques, les débats politiques qui peuvent être liés à celui-ci. Alors, Harvey le dit très clairement, je suis un théoricien du surplus de la suraccumulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, le problème fondamental du capitalisme, c'est qu'il y a trop de capital par rapport aux opportunités d'investissement rentable. Alors, bien sûr, dans certaines conjonctures, l'insuffisance de la demande peut jouer un rôle, hein, l'insuffisance de la consommation. Bien sûr, dans certaines conjonctures, les luttes sociales peuvent contraindre le capital à céder un certain nombre de droits ou des avancées salariales qui vont peser sur la profitabilité. Mais ça, ce sont des phénomènes secondaires. Ce qui est fondamental pour lui, c'est le fait que les profits s'accumulent et ne trouvent pas à se réinvestir de manière suffisamment rentable. Et de ce point de vue, pour lui, cet aspect est particulièrement présent dans la conjoncture contemporaine. Et l'accumulation par dépossession se présente ainsi comme une solution à ce problème de suraccumulation. Donc je cite, « Ce que l'accumulation par dépossession permet, c'est la libération d'un ensemble d'actifs, y compris de la force de travail, à un coût très réduit, dans certains cas à une valeur qui est égale à zéro, si bien que le capital suraccumulé peut s'emparer de ces actifs et leur trouver immédiatement un usage rentable. » Alors, Harvey considère que ce phénomène d'accumulation par dépossession joue un rôle si important aujourd'hui en raison de l'importance des problèmes de suraccumulation. Et il va dire que dans l'époque actuelle, on observe un basculement de priorité de l'accumulation par la reproduction élargie vers l'accumulation par dépossession. Donc cette modalité d'accumulation par dépossession devenant dominante par rapport à la modalité de l'accumulation élargie. Alors là, je pense qu'il faut préciser un peu ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'on entend par accumulation élargie, par reproduction élargie et accumulation par dépossession. Alors l'accumulation par la reproduction élargie, on pourrait la reformuler plus simplement par accumulation par exploitation. C'est finalement ce qui est généralement associé au capitalisme de manière très classique. Le capitalisme est un système de droits de propriété, un système économique, un système social, dans lequel, d'un côté, on a des travailleurs qui sont contraints de mettre leur force de travail au service du capital, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de subsistance, et de l'autre côté, des détenteurs de capitaux qui doivent embaucher ces travailleurs pour valoriser leurs capitaux, et qui doivent de manière incessante, et ça c'est un élément très important, de manière incessante, innover, se réorganiser, renouveler leur processus productif sous peine d'être éliminé par la concurrence. Et là je vais reprendre une définition de Robert Brenner du capitalisme, qui est donc un système dans lequel un développement incessant et systématique des forces productives, donc des puissances de production, provient d'un système de relations sociales et de propriété dans lesquelles les unités économiques, contrairement aux périodes précédentes, dépendent du marché pour tout ce dont elles ont besoin et sont incapables de dégager des revenus par des moyens de coercion extra-économique. Donc le seul moyen pour les capitalistes de survivre dans cet environnement, c'est d'exploiter le travail, mais également d'innover en permanence. Et donc là, on peut insister sur un point qui est en fait assez proche de Schumpeter. Le capitalisme se définit par l'innovation. L'innovation est quelque chose qui est au cœur du processus capitaliste. Mais, contrairement à Schumpeter, une série de travaux marxistes vont montrer que ce n'est pas quelque chose d'uniquement technique, d'uniquement, il n'y a pas un principe d'efficience qui s'impose, mais que les conflits sur le lieu de travail, les conflits sur les modes d'organisation du travail jouent un rôle essentiel pour donner forme à ces réorganisations des processus productifs. Bref, l'accumulation par l'exploitation, c'est celle qui permet, par ce processus productif, de générer du surplus, c'est-à-dire de la plus-value par rapport à ce que les capitalistes versent aux salariés et ce qu'ils en retirent. Donc là, on est dans quelque chose de très classique. Donc, ce que nous dit Harvey, c'est que bien sûr, ça joue un rôle important, mais il faut regarder au-delà de cette logique classique productive de l'accumulation, grâce à l'extraction de plus-value sur le travail salarié, parce que le capitalisme ne se résume pas à ce mécanisme-là. En fait, Harvey dit « Le capitalisme a toujours à voir avec la production et l'appropriation du surplus. Alors la production du surplus, c'est ce qu'on vient de voir, hein, le processus d'accumulation très classique. Mais l'appropriation du surplus renvoie là au processus d'accumulation par dépossession. Pourquoi ? Parce que le processus d'accumulation par dépossession va viser à acquérir du surplus sans s'engager dans la production. C'est en ça qu'il a un caractère prédateur. C'est générer du surplus sans prendre le risque de l'activité productive. Alors, quelles sont les choses qui peuvent être appropriées ? Alors, Harvey nous donne un spectre qui est vraiment extrêmement large, hein, de tout ce qui rentre dans l'accumulation par dépossession. La terre, hein, les ressources de la terre, l'énergie, les métaux, la force de travail, hein, donc ceux qui auparavant n'étaient pas engagés dans les rapports de production, n'étaient pas salariés, étaient hors du salariat, les artefacts culturels et les coutumes, les réseaux sociaux, mais également les entreprises publiques qui vont pouvoir être privatisées. Bon. Et donc la liste, je vais revenir sur une série de listes parce que la liste est vraiment extrêmement large. Hein. Mais si on veut essayer d'organiser un peu, et c'est pas évident de le faire parce que si on prend les différents écrits de Harvey, on retrouve pas les mêmes catégorisations précises de cette dépossession selon les écrits. Alors moi, j'ai essayé de dégager trois catégories, hein, de type d'accumulation par dépossession. Une première logique, c'est celle de l'accumulation primitive qui se retrouve chez Marx, donc je vais expliquer un peu. Une deuxième logique, c'est une logique qui provient d'un processus cannibale à l'intérieur même du capitalisme. Donc le terme de cannibale, c'est Harvey qui l'emploie. Hein. Et troisièmement, c'est des formes inédites propres à la période contemporaine de dépossession. Alors, vous m'arrêtez si évidemment je vais trop vite, si les choses ne sont pas claires. Alors, première modalité, donc, l'accumulation par dépossession, qu'on pourrait dire vers l'extérieur du capitalisme, vers ce qui lui est extérieur. Donc, Harvey nous dit, hein, la coercition par des pouvoirs supérieurs, que ce soit des marchands, des États, des pouvoirs coloniaux, des multinationales, implique la pénétration d'un ordre social ou d'une zone géographique qui existait auparavant, indépendamment de la logique du capitalisme. Et là, on peut prendre un exemple très simple. Hein. C'est, pour prendre un exemple plus récent que les enclosures de Marx, c'est celui que prend Manuel Scorza dans son roman « Roulement de tambour pour Rancas ». Donc c'est un roman qui se passe au Pérou dans les années 50 à 62, et les paysans du village de Rancas font face à une multinationale états-unienne qui s'appelle Cerro de Pasco Corporation, et cette entreprise veut clôturer 1 million d'hectares pour élever le bétail de sa section agricole. C'est une entreprise minière, mais qui a aussi une section agricole. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Du jour au lendemain, les villageois voient apparaître, surgit de nulle part, le grillage qui encercle la commune, rend les pâturages inaccessibles, affame les bêtes, humilie les hommes, etc. Et ce grillage, nous explique Scorza, c'est le visage des profits de l'Occident et des grandes entreprises de dépeçage appuyées par les gouvernements locaux et l'armée. Donc on voit bien l'idée. Hein. Il y avait un ordre préalable qui se passait des circuits capitalistes, et à un moment donné, il y a une intervention extérieure qui contraint ceux qui vivaient dans cet espace-là, avec ces moyens de subsistance-là, à partir. Ils sont donc dépossédés. Alors ça, c'est un exemple d'imposition par la force. Cette imposition par la force, parfois, peut être anticipée. Hein. Et là, on a tout ce qui concerne toutes les trajectoires de rattrapage. Hein. Une série de pays, voyant que leur société est en train d'être déclassée au niveau international, vont adopter, hein, le mode de production capitaliste pour pouvoir conserver leur rang de puissance dominante, de puissance autonome à l'échelle internationale, et leur rang de classe dominante dans leur propre société. C'est ce qui se passe, par exemple, avec la modernisation de l'ère Meiji au Japon, la modernisation de la Russie tsariste. On peut aussi penser à ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Hein. On a une introduction du capitalisme qui est décidée par les classes dirigeantes locales, hein, et qui va, là, bien se traduire par, finalement, la pénétration par la logique capitaliste des sociétés préalablement existantes, mais du fait même des classes dominantes de ces sociétés-là. Bon, bref, j'arrête sur cette première modalité, on voit de quoi il s'agit. Hein. C'est auparavant, il n'y avait pas de capitalisme, à un moment donné, il y a du capitalisme. Alors, deuxième modalité, et là, c'est assez troublant, c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent, c'est ce que Harvey appelle l'accumulation cannibale. L'idée de Harvey, c'est que en permanence, le capitalisme doit se trouver des sources, de nouvelles sources pour soutenir l'accumulation de manière prédatrice. Il fait l'hypothèse, sans vraiment la démontrer, c'est assez critiqué, hein, que la logique de la reproduction élargie, la logique classique, ne peut pas suffire à elle-même, qu'elle a tout le temps besoin d'un extérieur. Alors, il nous dit la chose suivante. L'accumulation par dépossession peut s'approcher davantage de la cannibalisation d'actifs, hein, et qu'elle se poursuit au sein du capitaliste lui-même, lorsque certaines factions du capital, en particulier le capital financier, saisissent l'opportunité de s'approprier des actifs détenus par d'autres. Hein. Alors, par d'autres, ça peut être des industriels, hein, ou ça peut être des manœuvres de fusion et acquisition. Il évoque aussi des choses tout à fait différentes, des logiques de concurrence entre territoires, entre villes, pour attirer les capitaux. Hein. Il évoque également les manœuvres géopolitiques entre les puissances capitalistes qui existent déjà pour la puissance économique. Donc là, on est dans une logique prédatrice, mais qui opère au sein du capitalisme lui-même, soit entre capitaux rivaux, soit entre puissances politiques qui sont associées à différents capitaux rivaux. Et puis, troisième catégorie, qui est celle qui résonne le plus avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les nouvelles formes de dépossession. Il nous dit qu'il y a des formes entièrement nouvelles de dépossession. Il évoque, par exemple, les accords sur la propriété intellectuelle à l'OMC, qui ouvrent de nouveaux champs à la valorisation du capital. Il évoque la marchandisation généralisée de la nature, par exemple la biopiraterie, les marchés des droits à polluer. Il évoque les privatisations de services publics, la commercialisation de formes culturelles, c'est-à-dire comment des formes de la culture populaire sont appropriées par les industries culturelles pour être valorisées, etc. Donc voilà, on a ces trois on peut hein, dresser cette typologie des formes de l'accumulation par dépossession. En résumé, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça, hein ? C'est que l'accumulation du capital ne procède pas seulement par la production de plus-value. Hein. Elle procède également par la captation des surplus économiques, par l'appropriation des actifs des autres. Et ce qu'on voit, c'est que cette appropriation des possessions, hein, à chaque fois qu'il y a appropriation, l'autre versant, c'est la dépossession, peut s'effectuer soit vis-à-vis de cibles qui sont préalablement à l'extérieur des circuits du capital, soit à l'inverse, au sein même de ces circuits, en particulier par les mécanismes financiers. Mais pas seulement.
Il y a une question.
Oui. C'est une excellente question. Ça sera une des critiques qu'on va poser, porter tout à l'heure à Harvey.
Mais Harvey considère ça quand même comme une accumulation.
Voilà, il considère ça comme une accumulation. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a ces processus cannibales, le capital singulier qui absorbe les autres, hein, eh bien, lui grossit individuellement. Donc il y a bien, pas une accumulation du capital en général, mais il y a bien une accumulation du capital particulier. Mais vous avez raison, c'est un des problèmes sur lequel on reviendra dans les critiques tout à l'heure.
Juste la distinction entre concentration et centralisation.
Non, justement, les mécanismes et de concentration et de centralisation apparaissent inclus dans la définition de Harvey de accumulation par dépossession. Donc on verra tout à l'heure, je ferai un petit tableau où je mettrai les différentes formes d'accumulation, puis on essaiera de voir comment on peut articuler ça. Alors, donc voilà, on a vu les différents types. On peut voir aussi les différents mécanismes, hein, les mécanismes par lesquels la dépossession procède. Il y a des mécanismes économiques. Hein, c'est en particulier la concurrence intercapitaliste, ce que vous venez d'évoquer à l'instant, qui a pour effet la centralisation, la concentration du capital. C'est également des mécanismes extra-économiques. Hein. Et alors, c'est assez étrange, parce que lorsqu'on regarde dans le chapitre de Harvey, ce qui apparaît très clair, c'est les politiques qui conduisent à cette accumulation par dépossession. Ce qui semble au premier plan, c'est la dimension politique, extra-économique. Mais lorsqu'il répond aux critiques dans le numéro spécial de Historical Materialism, il insiste beaucoup sur, au contraire, les mécanismes économiques d'accumulation par dépossession, et en particulier le rôle joué par la finance. Donc il y a ces deux modalités. Et puis également, il dit, c'est une combinaison des deux. Parfois, on ne peut pas distinguer les deux, le politique et l'économique. Il dit, prenez concrètement ce qui se passe en Argentine, en 2001, lorsque le Corralito va être abandonné, il y a des camions remplis de dollars qui rejoignent l'aéroport de Buenos Aires et qui vont aller s'envoler vers Miami avant qu'on arrête les transactions en dollars. Bon, mais quel est ce processus? C'est un processus à la fois politique, puisque la décision a été prise de manière à laisser le temps à ces capitaux de partir, mais c'est également un processus économique, parce qu'ils vont revenir bientôt, hein, quelques mois après, en pouvant, avec trois fois plus de pouvoir d'achat. Hein, donc c'est un mix des deux. Bon, donc voilà un peu pour cette présentation du concept de Harvey. On peut peut-être introduire une dernière idée sur laquelle on va revenir, c'est que pour lui, c'est une condition nécessaire à la survie du capitalisme. Alors j'ai déjà dit qu'il ne le démontrait pas vraiment. Hein. Il disait que les tendances à la suraccumulation étaient telles qu'en permanence, il y avait besoin de ces mécanismes de dépossession. Mais de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se situe dans la filiation de Rosa Luxembourg. Hein. Alors pour des raisons différentes, mais il voit comme elle que l'expansion vers un extérieur de la dynamique du capital est quelque chose de nécessaire à la survie du capitalisme. Alors, il me semble que pour clarifier un peu ce concept, on peut remonter à ses antécédents, et en particulier au concept d'accumulation primitive chez Marx, également au rôle de l'impérialisme chez Rosa Luxembourg, et pour avoir une transition vers les enjeux plus spécifiquement politiques, au débat autour de l'école de la dépendance et des travaux néo-marxistes dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'accumulation primitive chez Marx, pour commencer. Donc, Adam Smith, avant Marx, avait soulevé l'idée qu'il y avait une accumulation originaire du capital, qu'il était nécessaire qu'il y ait un minimum de concentration du capital qui ait lieu pour pouvoir enclencher le processus par lequel les investissements sont réalisés et le profit est dégagé. Mais Marx considère que l'histoire d'Adam Smith est une fable. Hein. Alors l'histoire d'Adam Smith, c'est que cette accumulation se serait faite par le résultat de préférences de certains agents pour l'épargne, et qui petit à petit auraient donc économisé, auraient réussi à dégager de cette manière-là un surplus et à investir. Tandis que les autres auraient choisi délibérément de consommer l'intégralité de leur revenu. Donc lui, il montre que ce n'est pas du tout ça. Il montre qu'au contraire, c'est un processus extrêmement violent, un choc extrêmement violent qui va avoir lieu. Et il parle d'une histoire de l'accumulation primitive comme une histoire qui s'inscrit en lettres de feu et de sang. Alors je vais peut-être vous lire un petit passage dont on pourra sortir plusieurs éléments qui sont intéressants pour comprendre le concept d'accumulation par dépossession. Alors, il commence par dire, hein, dans ce chapitre, pourquoi les salariés acceptent finalement ce marché dans lequel ils se mettent au service et sous la dépendance du capitaliste en renonçant à tout titre de propriété sur le produit qu'ils vont réaliser. Et alors la réponse est bien sûr parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, ils n'ont pas rien d'autre que leur force de travail et qu'ils sont donc contraints de la vendre. Donc, l'accumulation primitive est fondamentalement cette séparation des producteurs vis-à-vis des moyens de production, des moyens de subsistance. Donc je relis, je reprends la lecture. Hein. Au fond du système capitaliste, il y a donc la séparation radicale du producteur d'avec les moyens de production. Cette séparation se reproduit sur une échelle progressive dès que le système capitaliste s'est une fois établi, mais comme celle-là forme la base de celui-ci, il ne saurait s'établir sans elle. Il faut donc, pour qu'il vienne au monde, il faut donc que, partiellement au moins, les moyens de production aient déjà été arrachés sans phrase aux producteurs qui les employaient à réaliser leur propre travail et qu'ils se trouvent déjà détenus par des producteurs marchands qui, eux, les emploient à spéculer sur le travail d'autrui. Le mouvement historique qui fait divorcer le travail d'avec ses conditions extérieures, voilà donc le fin mot de l'accumulation appelée primitive, parce qu'elle appartient à l'âge préhistorique du monde bourgeois. Donc il y a deux choses essentielles dans ce passage. La première, je l'ai dit au début, hein, c'est l'idée que l'accumulation primitive, c'est ce qui consiste à séparer les moyens de production et de subsistance du travail. Hein, c'est un processus qui transforme les moyens de subsistance et de production en capital et les travailleurs directs, hein, en salariés. Donc ça, c'est le premier élément clé. Le second élément clé, c'est que cette séparation est un processus qui, une fois la dynamique enclenchée, ne cesse de s'étendre. Donc, une fois que la concurrence, le capitalisme se met en marche, les rapports de production au capitalisme se mettent en marche, ils conduisent à un développement des forces productives telles que les producteurs indépendants, hors du système capitaliste, sont petit à petit éliminés par la concurrence. Ils sont éliminés par la concurrence et doivent donc devenir des salariés. Donc on a une séparation qui a lieu initialement par des méthodes violentes, on va voir lesquelles, mais ensuite qui continue d'avoir lieu hein, en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, des travailleurs indépendants sont contraints d'abandonner leur travail parce qu'ils sont éliminés par la concurrence et contraints de devenir des salariés. On a donc cette séparation qui est au début et qui continue. Alors, donc on a aussi cette idée hein, que ça va être un processus économique qui permettra la poursuite de la séparation, mais comme le moment initial implique des ruptures extra-économiques. Alors, quelles sont ces méthodes extra-économiques hein? Marx en indique toute une série. Dans un premier temps, il y a les enclosures, hein, ces mesures qui, en Angleterre, vont conduire les paysans à quitter la terre parce que des grandes exploitations extensives de bétail vont être, de ovins plutôt, vont être mises en place. Donc là, ces paysans vont se retrouver sans force de travail et contraints de se mettre au service des capitalistes qui naissent à ce moment-là. On a également le démembrement des corporations féodales qui va permettre à la concurrence de se mettre en place. On a également le pillage colonial qui va permettre l'accumulation d'un certain nombre de richesses qui pourront être investies. On a également la guerre mercantile, déjà l'association d'un certain nombre de capitaux avec la puissance politique pour acquérir des motifs de puissance économique. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que Marx pointe le fait que même une fois ce processus enclenché, une fois l'Angleterre déjà devenue une puissance industrielle, ce processus d'accumulation primitive se poursuit. Et il évoque en particulier le rôle du régime colonial, hein, qui maintient l'Inde, par exemple, dans une situation qui empêche son développement économique et favorise le développement économique de l'Angleterre. Il évoque le protectionnisme, il évoque aussi la dette publique. Hein. Pourquoi la dette publique? Puisque la dette publique a pour corollaire imposé les impôts, hein, et des impôts qui, en pesant notamment sur les travailleurs indépendants, vont les contraindre à abandonner leur position de travailleurs indépendants et à devenir des salariés. Alors, on trouve là une dernière idée que j'emprunte à Jean Batou, hein, cette idée que l'accumulation primitive et accumulation par dépossession sont en fait les deux aspects d'un même phénomène. Hein. L'accumulation, en fait, c'est ce qui permet des richesses d'un côté, la dépossession, c'est ce qui les enlève de l'autre. C'est les actifs qui sont privés de l'autre. On a donc à la fois un volet économique, l'accumulation, et un volet social, politique, qui est la dépossession des producteurs de leurs biens communs ou de leurs moyens de production. Et entre les deux, on a un agent de liaison important qui est l'État ou des arrangements politiques, autres, protection douanière, etc. Alors, pour finir avec l'accumulation primitive, on peut voir chez Marx trois logiques. Une première logique d'appropriation des possessions qui enclenche la dynamique du capitalisme. Donc qui libère des travailleurs et les met sur les contraintements de leur force de travail. Une logique politique d'appropriation des possessions qui se poursuit alors même que le capitalisme est déjà, les rapports socio-capitalistes sont déjà enclenchés. Troisièmement, une logique économique de dépossession qui est liée aux effets de la concurrence, qui écarte les producteurs indépendants devenus compétitifs. Puisque ces trois logiques contribuent à constituer les moyens de production au capital d'un côté et les travailleurs en salariés d'autre part. On a donc là bien une logique de captation d'actifs et non de production, hein, de production de surplus. Alors bon, il faut bien voir que chez Marx, ces développements sur l'accumulation primitive sont relativement marginaux. Hein, c'est à la fin du livre 1 et la plupart des marxistes vont accorder une importance finalement assez limitée à ce phénomène. Ils vont cependant jouer un rôle tout à fait important, même central, chez Rosa Luxembourg et chez les théoriciens néo-marxistes de l'école de la dépendance. Pour faire vite. Alors je vais aller assez vite sur Rosa Luxembourg, mais pour évoquer une distinction, hein, elle va montrer qu'il y a deux dimensions, deux aspects hein, dans l'accumulation du capital et que ces deux aspects sont organiquement liés, hein, que le premier ne peut pas exister sans le deuxième. Alors premier aspect, c'est la production de la plus-value et la circulation des marchandises. Hein. Donc c'est, si vous voulez, l'accumulation par exploitation qu'on a évoquée tout à l'heure, et la logique économique, hein, donc elle y introduirait la centralisation, la concentration, les effets de la concurrence, liés à la dynamique du capitalisme. Elle nous dit ces modalités sont celles d'un processus économique qui a l'apparence, hein, qui a l'apparence qui dissimule les rapports d'exploitation et d'appropriation sous une apparente égalité, une naturalité des échanges économiques. Elle parle elle dit que ces phénomènes économiques se placent sous le signe de la paix, de la propriété privée et de l'égalité formelle. Hein. Donc formellement, bien sûr, il y a des rapports qu'elle critique qui sont des rapports d'exploitation, d'appropriation, etc., mais ils sont masqués. Elle dit par contre qu'il y a un second aspect de l'accumulation, qui est les relations entre le capital et les modes de production non capitalistes, hein, son extérieur, en particulier les sociétés encore non capitalistes, où là, on n'a pas du tout cette apparence d'égalité, cette apparence de ce respect de la propriété privée, le signe de la paix, etc. Pas du tout. Au contraire, c'est les brutalités politiques qui sont au premier plan, c'est la politique coloniale, c'est les systèmes d'emprunt internationaux, on retrouve encore la question de la dette qui est un aspect important, c'est la politique des sphères d'intérêt, c'est la guerre. Hein. Et là, la violence, l'escroquerie, l'oppression, le pillage se déploient ouvertement. Et ce que dit Rosa Luxembourg, c'est que ces deux éléments sont organiquement liés, qu'ils sont en permanence présents dans le capitalisme. Alors, pour une raison qui aujourd'hui est très fortement critiquée, hein, Rosa Luxembourg a été partisan d'une thèse sous-consommationniste, c'est-à-dire qu'elle considérait que le capitalisme courait à sa perte, était contraint de développer une politique impérialiste parce qu'il n'y avait pas assez de consommation de la part des salariés, parce qu'ils étaient trop pauvres. Mais l'élément important, et ce qui fait le lien avec Harvey, c'est cette idée qu'il y a besoin d'un extérieur en permanence. Alors, troisième élément, c'est l'accumulation primitive qui est un processus continu et qui joue un rôle politique central. Et c'est le point de vue des néo-marxistes de l'école de la dépendance. En effet, hein, aussi violente que soit-elle, aussi cruelle que soit-elle, pour l'essentiel, pour Marx, l'accumulation primitive était un mal nécessaire. La conclusion politique qu'il fallait tirer, ou que beaucoup ont tiré, en tous les cas, s'il ne fallait pas le faire, de l'analyse de Marx, était la suivante. Les agents naturels de la lutte sociale révolutionnaire sont ceux qui représentent le futur du capitalisme, c'est-à-dire les classes ouvrières des pays industrialisés, des pays les plus avancés, les autres formes de lutte contre le capital, les formes de lutte contre l'accumulation primitive, sont des formes anachroniques, elles regardent vers le passé, hein, et elles regardent vers la préhistoire du capitalisme, plutôt que de regarder, comme le fait la classe ouvrière, vers les possibilités nouvelles qu'ouvre le capitalisme pour créer un monde post-capitaliste. Et ce point de vue critique vis-à-vis des classes subalterne hors du capitalisme de Marx s'exprime par exemple dans le point de vue qu'il évoquait sur la paysannerie européenne. Il expliquait ainsi que les paysans français forment un groupe à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. Hein. Donc l'idée qu'il n'y a vraiment aucune consistance. Pourquoi ? Non seulement parce qu'ils ont des vues qui sont tournées vers le passé, mais également parce qu'ils sont atomisés, éclatés, et contrairement au prolétariat qui lui est concentré dans les espaces urbains, il n'y a pas la possibilité de faire circuler des idées et d'émerger en tant que classe porteuse d'un projet. Donc on va avoir un positionnement dans l'ensemble du mouvement ouvrier au XXe siècle qui sera très industrialocentré, hein, centré sur les classes ouvrières industrielles, et par conséquent, très centré sur l'Europe. Et c'est en réaction à ça que vont se développer toute une série d'analyses, une série d'analyses politiques et une série d'analyses théoriques. Alors sur le plan politique, c'est en particulier le maoïsme qui va mettre ça en avant. On aura également un certain nombre de groupes se situant dans l'affiliation trotskiste qui vont pointer les liens qui peuvent exister entre classe ouvrière émergente et frustration, mécontentement des masses paysannes oppressées. Et ces groupes vont avoir en commun de mettre en cause l'étapisme du marxisme classique qui voulait que, en gros, le prolétariat urbain soit l'avenir soit porteur du seul et unique projet possible pour le post-capitalisme. Et en particulier, évidemment, il se pose la question des mouvements révolutionnaires, des mouvements politiques dans les pays de la périphérie. Alors, sur le plan théorique, on va avoir émergé une série d'auteurs qu'on peut qualifier de néo-marxistes dans la période qui arrive après la Seconde Guerre mondiale, avec des auteurs tels que Paul Baran, Günther Frank, Immanuel Wallerstein, Samir Amin. Alors bon, je vais pas m'attarder dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces auteurs mettent l'accent avant tout, non pas sur la dynamique productive hein, du capitalisme, sur
la... Excuse-moi, il y a une question.
Oui, bien sûr.
Tu veux que je passe ?
Oui. Donc Baron, Günter Frank, Wallerstein, Samir Amin. Et alors ces auteurs ne mettent pas l'accent sur la dynamique de l'accumulation par exploitation, mais au contraire mettent l'accent sur l'échange inégal, sur la dynamique centre-périphérie et les aspects de polarisation qui sont liés entre le centre de l'accumulation capitaliste et les périphéries. Et en particulier, ils insistent sur un point, sur l'idée que le capitalisme n'a pas nécessairement vocation à se généraliser, mais qu'il peut très bien coexister et profiter de la présence hein, de formes précapitalistes à sa marge, d'exploiter, de bénéficier, si vous voulez, des richesses produites par par des formes non capitalistes. Alors on a ici une série de liens qui peuvent être faits avec la perspective, avec le concept d'accumulation par dépossession. D'abord, à la différence de ce qui apparaît la plupart du temps chez Marx, hein, les propriétaires de la petite propriété précapitaliste, menacés par l'accumulation primitive, ne sont pas nécessairement les représentants en voie de disparition de l'époque prémoderne. Pour ces auteurs, au contraire, ce sont les agents révolutionnaires les plus importants. Ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la constitution de coalitions progressistes. Et évidemment, c'est ce qu'on va voir au XXe siècle, avec l'émergence de toute une série de mouvements révolutionnaires puissants à la périphérie, en particulier des mouvements paysans. Alors il faut quand même là préciser que Marx n'a pas été homogène là-dessus. En particulier, vers la fin de sa vie, il s'intéressait à la commune russe. Il disait « Si la révolution se fait en temps opportun, si elle concentre toutes ses forces pour assurer l'essor libre de la commune rurale, celle-ci se développera bientôt comme un élément régénérateur de la société russe et comme un élément de supériorité sur les pays asservis par le régime capitaliste. » Donc l'idée qu'il puisse y avoir dans le pré-capitaliste des ressources pour le post-capitaliste a été formulée par Marx, même si ce n'était pas au centre de sa réflexion. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, ça permet de faire un lien avec la séance qui sera consacrée à l'indianisme, hein, dans les travaux notamment de Garcia Linera. Mais bon, on a quand même cette idée hein, que des agents finalement à la marge des rapports socio-capitalistes peuvent jouer un rôle tout à fait important. Deuxième idée importante qui fait le lien avec l'accumulation par dépossession, c'est que l'accumulation primitive n'est pas seulement une étape, c'est quelque chose qui se reproduit en permanence dans le capitalisme. Et Wallerstein en particulier insiste sur le fait qu'à l'échelle mondiale, hein, la population salariée reste marginale. Et troisième élément, là, qui fait le lien avec Rosa Luxembourg, c'est l'idée que la capture d'actifs venant de secteurs non capitalistes est quelque chose qui joue un rôle essentiel. Hein. Alors même si pour Samir Amin, ce n'est pas une nécessité absolue, ce n'est pas une nécessité théorique, c'est une option qui est disponible et qui sera en permanence utilisé par les économies du centre. Alors ce point est intéressant, l'apport marxiste est intéressant parce qu'il permet de faire le lien entre justement logique, dynamique économique et dynamique politique. Et en particulier, Glassman, dans un des articles qui est en référence pour cette séance, fait un bilan succinct des luttes classiques, hein, si on veut... dans le cadre du mouvement ouvrier traditionnel, et de ces luttes qu'on pourrait dire contre l'accumulation primitive. Et on a d'un côté un réformisme qui va s'affirmer au Nord et qui va conduire à une série d'avancées tout à fait substantielles pour les populations, mais qui en même temps ne sera pas l'agent du changement révolutionnaire qui est espéré. On peut même dire, hein, et les auteurs néo-marxistes pointeront le fait qu'il peut y avoir des alliances entre... Il parle de social-impérialisme avec la possibilité que les mouvements ouvriers du Nord puissent soutenir l'hyper-exploitation des ouvriers et des paysans du Sud. A l'inverse, au Sud, on a eu des mouvements révolutionnaires puissants qui ont conduit à des conquêtes du pouvoir, mais avec un bilan mitigé, hein, des déceptions importantes, des échecs, mais également une structuration au niveau national qui, finalement, affaiblit aujourd'hui ces mouvements. Et en particulier, Glassman insiste sur le fait qu'aujourd'hui, des mouvements du type révolution chinoise, révolution russe, etc., sont moins probables à la périphérie. Pourquoi ? Parce qu'au sein de ces sociétés, on a des cœurs qui sont complètement intégrés, très massivement intégrés, au circuit du capitalisme mondial. Hein. C'est la théorie des Global City Networks, donc où on a vraiment un capitalisme tout à fait pleinement moderne au cœur de ces sociétés, et où on a finalement peut-être plus d'écart, ou moins de possibilités d'alliance qu'on en avait par le passé entre le mouvement ouvrier émergent et les populations marginalisées. Bon, alors je vais m'arrêter sur ces éléments qui permettent de voir qu'il y a un peu un arrière-plan finalement à l'accumulation par dépossession, hein, l'accumulation primitive chez Marx, la théorie de l'impérialisme chez Rosa Luxembourg, les débats sur les mouvements révolutionnaires à la périphérie et le rôle de la dépendance chez les auteurs néo-marxistes, pour revenir à des éléments peut-être plus immédiats sur les problèmes que pose l'accumulation par dépossession. Alors, premier point que je voudrais aborder, c'est les critiques théoriques qui ont été formulées. On a trois principales critiques théoriques qui vont être formulées. La première, c'est que l'accumulation par dépossession est quelque chose de trop large. Et du coup, là, je vais essayer de faire un petit tableau pour essayer de répondre un peu aux questions que vous avez posées tout à l'heure, et de voir finalement qu'est-ce qui relève de l'accumulation par dépossession et qu'est-ce qui n'en relève pas. Alors donc là, on a ce qui est de la dynamique interne du capital. Là-dedans, on va avoir l'extraction de valeur, ou la destruction, et la deuxième chose qui se passe, c'est la répartition de cette valeur. Alors l'extraction, comment elle se fait? Premier élément, c'est l'accumulation par exploitation, ce que vous évoquez. Donc là, il n'y a pas de problème. On a vu que pour Harvey, c'était bien justement pour montrer qu'il y avait autre chose que ça qui développait son concept d'accumulation par dépossession. On va avoir un deuxième élément qu'on ne va pas discuter ici, mais qui serait la destruction de valeur. On a extraction, destruction de valeur, donc là on peut le mentionner. Destruction de capital. Alors, si vous voulez, cette ligne, c'est ce qui permet de déterminer le volume général de capital accumulé. Mais on a également des modalités donc, qui une dynamique externe au capital. Et donc là, on a une accumulation par des moyens extra-économiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a l'accumulation primitive, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait rentrer des sociétés qui n'étaient pas dans le capitalisme. On peut le définir de cette façon-là. Deuxième élément, on pourrait dire ce qui est l'accumulation par dépossession au sein des sociétés capitalistes. Donc là, c'est un abus, hein, si je dis mes dépossessions, puisque pour Harvey, c'est plus large que là, mais on pourrait dire accumulation. Voilà, on précise accumulation par dépossession au sein. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose que j'écris, parce que je pense que vous n'arrivez absolument rien à lire. Mais bon, ça donne des repères. Donc, accumulation par dépossession au sein du capitalisme. Et puis, troisième élément, qui n'est pas du tout évoqué par Harvey, mais qui doit avoir sa place, c'est le rôle des formes genrées et racialisées de la reproduction sociale. Et qui joue un rôle dans l'accumulation. Puisque c'est elles qui permettent de fournir de la main-d'œuvre salariale, d'assurer la reproduction de la main-d'œuvre salariale. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a dans la dynamique interne du capitalisme, on a les mécanismes de répartition de la valeur, et c'est la centralisation, la concentration. A, B, C, D, concentration. Et centralisation du capital. La concentration, hein, c'est le mécanisme par lequel une entreprise, un capital particulier, croît lui-même. La centralisation, c'est les mécanismes de fusion, d'absorption de différents capitaux. Bon, bah, l'accumulation par dépossession de Harvey, ça situe où? Ça situe ici. Ça situe ici. Et ça situe ici. Donc là, on voit bien qu'il y a différentes modalités qui sont
qui sont sans doute trop larges. Et là, on retrouve une série de critiques qui sont faites. On a la critique qui est faite par Ben Fine, hein. C'est l'idée que c'est un ensemble exagérément divers de facteurs sont rassemblés sous le parapluie de l'accumulation par dépossession. Brenner fait la même théorie. Et il dit, en gros, Brenner, Harvey a réalisé quelque chose de merveilleux. Il a remis au goût du jour le concept d'accumulation primitive. C'est quelque chose d'essentiel pour saisir ce qui se passe dans le capitalisme contemporain. Mais il a voulu trop en faire, il a trop élargi. Si on restreignait le concept à ça, hein, à cette partie prédatrice, on comprendrait mieux. On n'a pas besoin d'intégrer quelque chose qui ne fait pas déjà partie de l'analyse du capitalisme en général. Donc là, il y a un peu une tension. Et on va voir que ça obscurcit un peu également les choses sur le plan politique tout à l'heure. Alors la seconde critique qui est faite par Harvey, c'est l'idée que ce concept d'accumulation par dépossession, il dit que c'est ce qui joue le rôle dominant dans l'accumulation aujourd'hui. Et ce qui lui est rétorqué par Brenner notamment et par d'autres, c'est que ce concept dominant, l'idée que ça joue un rôle dominant, est justement associé au fait que la définition est extrêmement vague et extrêmement large. Si on précise un peu les choses, il n'est pas du tout évident, en tous les cas à l'échelle planétaire, que l'exploitation du travail en général et les mécanismes propres à la concentration et centralisation du capital ne soient pas la forme dominante. Même si, probablement, ces éléments jouent un rôle plus important. Et là, c'est une troisième critique que moi je voudrais introduire. C'est justement le caractère un peu vague du concept, finalement, limite son caractère opérationnel. Il devient relativement peu opérationnel pour expliquer ce dont on a besoin d'expliquer. Du coup, il faut le redécortiquer, comme j'ai essayé de l'esquisser de le faire ici, pour pouvoir explorer ce qu'il a vraiment à nous dire et qui est vraiment très important. À mon avis, on peut mobiliser le concept d'accumulation par dépossession, si on le fait de manière adéquate, pour expliquer ce qui est le grand problème économique qu'on doit théoriquement traiter aujourd'hui. Ce grand problème, c'est quoi? C'est qu'on a à la fois plein de profits et qu'on n'a pas d'investissement. Dans les pays du Nord, on a une accumulation, on a des profits très élevés, mais on n'a pas d'accumulation réelle du capital. Ce mystère des profits sans l'accumulation, c'est quelque chose où il y a toute une série de débats en économie qui me semble très important. Et là, on peut utiliser Harvey, si on le resserre de manière un peu plus précise, pour l'expliquer. L'idée qu'il y a bien une accumulation qui se fait par des moyens extra-économiques qui donc ne provient pas de l'investissement, n'est pas lié à une dynamique d'investissement, peut expliquer assez intuitivement, on dit que c'est là qu'il se joue quelque chose pour expliquer qu'à la fois on a des profits élevés et qu'on n'a pas ces investissements importants. Alors quelles sont les pistes qu'on peut avoir? À mon avis, il y a deux principaux mécanismes qui jouent un rôle. Le premier, c'est l'idée qu'il y a une partie importante des profits qui sont réalisés via en fait l'intégration des gains de l'accumulation primitive à la périphérie. On a eu en particulier l'intégration de la Chine, de la Russie, etc. au capitalisme mondial. Donc là, on a un mouvement gigantesque d'accumulation primitive. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par la possibilité pour les firmes du Nord de bénéficier d'intrants à moindre coût et d'augmenter leurs profits grâce à ces intrants à moindre coût. Et c'est tout ce que montre toute la littérature sur les chaînes globales de marchandises. On a une série d'études qui font le lien entre délocalisation et plus généralement offshoring, c'est-à-dire importation des inputs et profit et niveau des profits des firmes. Et donc on a l'idée qu'on a à la périphérie une concurrence très forte parmi les fournisseurs, alors qu'au centre on a des oligopoles relativement peu concurrentiels. Ils peuvent donc gagner, s'approprier hein, via des prix peu élevés, une partie des gains de l'accumulation primitive à la périphérie. Donc là on a, à mon avis, un premier lien qui est intéressant, hein, accumulation primitive et explication de la situation des profits sans accumulation au Nord. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, hein, c'est la logique prédatrice qu'on saisit de manière plus immédiate. C'est le démantèlement des services publics, c'est les subventions multiples au capital, c'est le crédit impôt recherche, c'est les attaques des droits sociaux, c'est les privatisations, qui là sont au sens le plus... c'est, je pense, ce sens-là de Harvey qui a eu le plus de succès, parce que c'est celui qui renvoie le plus clairement à la dynamique du néolibéralisme, hein, où on a là une série d'actifs qui sont libérés à moindre coût pour le capital, dans l'exemple des privatisations, ou l'expropriation hein, des populations d'une série de leurs droits, la sécurité sociale, etc., qui correspond, permet soit de baisser le coût du travail, soit d'ouvrir de nouveaux champs à l'accumulation, hein, par les fonds de pension, les assurances privées, etc. Donc à mon avis, on a intérêt à serrer un peu le concept d'accumulation et à le relier, si on veut le rendre opérationnel, du point de vue de l'analyse économique, à ce problème de l'accumulation des profits sans accumulation. Alors, sur le plan politique, je vais finir avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'objectif de Harvey, je l'ai dit au début, est très clairement de répondre au problème qu'il identifiait au début des années 2000, et en particulier à l'essor du mouvement altermondialiste. Et en particulier, ce que constate Harvey, c'est qu'on a d'un côté des mouvements syndicaux et de l'autre côté des mouvements de centre, des mouvements écologistes, etc., qui ont une défiance vis-à-vis les uns des autres qui est très forte. Et lui, son objectif, c'est de montrer que théoriquement, on peut expliquer pourquoi il y a un ennemi commun à ces différents mouvements, et que donc cette démonstration théorique est aussi un outil politique pour permettre de construire le mouvement. Alors, il propose, et c'est très clair à la fin de son chapitre là, dans le Nouvel Impérialisme, il propose une série de pistes pour permettre de favoriser ce rapprochement. La première, c'est d'abord de reconnaître très largement le rôle joué par l'accumulation par dépossession comme pivot dans la lutte des classes. À la fois, ça joue quelque chose de majeur au niveau économique, c'est un rôle majeur au niveau économique, mais aussi c'est une source majeure de conflits sociaux. Et donc, il faut accorder pleinement, c'est pas quelque chose de secondaire, comme c'était considéré par le marxisme classique, mais c'est quelque chose qui est tout à fait central dans la lutte des classes. Deuxième idée, c'est que il ne faut pas que ces luttes... il reprend une défiance qu'il y avait, il accrédite un peu une défiance qu'il y avait vis-à-vis des luttes contre la dépossession, sur l'idée qu'elle puisse être rétrograde, tournée vers le passé, etc. Et il dit il faut donc réussir à élever ces luttes au-delà de la nostalgie pour les formes précapitalistes, c'est-à-dire faire la part des éléments progressifs et régressifs des processus d'accumulation par dépossession. Bref, il faut être capable de reconnaître le potentiel créatif de certaines formes précapitalistes, par exemple ce qui est fait dans le cadre des mouvements en Bolivie, des mouvements indigènes en Bolivie. Mais en même temps, il ne faut pas toujours défendre ces formes précapitalistes. Parfois, elles peuvent être réactionnaires. Donc, il faut être capable de faire la part des choses et essayer de se projeter au-delà. Un autre danger qui pointe et qu'il faut éviter absolument, c'est la fragmentation, le localisme, s'enfermer dans le localisme. Et en particulier, pour ça, il faut essayer de faire émerger des objectifs globaux, communs, essayer de recréer de l'universel dans cette lutte contre la dépossession. Lorsqu'on lutte contre la dépossession, il n'y a pas juste ce qui se passe chez moi, dans ma montagne, on va mettre des éoliennes, mais c'est un processus plus général. Donc il faut essayer de faire émerger du général dans cette lutte locale. Et troisième élément, il faut, alors là il dit qu'il faut être volontariste, mais il faut en permanence essayer de faire le lien entre l'accumulation classique, les luttes contre l'exploitation classique, et les luttes qui s'intègrent dans l'accumulation par dépossession. Bon, en bref, il dit qu'il ne nie pas, n'idéalise pas les luttes contre l'accumulation par dépossession, mais il dit qu'il faut reconnaître leur rôle et essayer de les associer aux luttes contre l'exploitation de manière à faire émerger des éléments de projet communs qui, en même temps, respectent la diversité de chacun. Alors moi, je voudrais ajouter trois, et je vais finir là-dessus, je voudrais ajouter trois pistes sur les éléments... 3-4 pistes par rapport à ces développements politiques. Alors le premier, qui me semble extrêmement important, c'est les liens entre la décroissance et le concept d'accumulation par dépossession, qui n'est pas toujours explicite chez Harvey. Mais en gros, on a une série de travaux qui montrent qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre le bien-être des populations et la croissance économique. Bon, ben là, on a une explication théorique. Pourquoi il y a une déconnexion entre le bien-être et la croissance? C'est parce que l'accumulation se fait de manière prédatrice aux dépens des conditions de vie de la population. Donc je pense qu'on peut insister sur ce plan. C'est aussi quelque chose qui permet de faire le lien entre des domaines théoriques qui ont beaucoup de mal à dialoguer parce qu'ils partent de perspectives complètement différentes. On pourra en discuter plus si vous voulez. Alors deuxièmement, c'est l'idée qu'il faut penser, Harvey le fait un peu, mais... peut-être qu'on peut essayer de creuser un peu le lien entre ces différents régimes de lutte, les luttes contre l'exploitation et les luttes contre la dépossession. Alors, on pourrait faire, à la suite de Beverly Silver, qui a publié un ouvrage au début des années 2000 qui s'appelle Forces of Labor, qui est vraiment un ouvrage assez magnifique sur les luttes des travailleurs depuis les années 1870. Et elle fait le lien entre... Si vous voulez faire passer... Elle fait le lien entre les luttes qu'elle appelle à la Marx et les luttes à la Polanyi. Les luttes à la Marx, c'est celles qui ont lieu sur le lieu de travail. Et en gros, sur le lieu de travail, on a un certain rapport de force qui permet de faire grève, d'obtenir des avantages salariaux, etc. Puis elle évoque les luttes à la Polanyi. Les luttes à la Polanyi qui seraient plus des luttes contre les effets délétères de la marchandisation qui empêchent, qui finalement détruisent des conditions de vie des populations en général. Et on voit bien l'idée. Les luttes à la Marx, c'est plus facile de gagner... parce qu'on a un rapport de force plus fort, mais les enjeux sont plus limités, puisque c'est intégrable au système. Les luttes à la Polanyi sont plus globalisantes,
touche la logique d'ensemble du système, les effets de la dépossession, mais par contre, c'est bien plus dur de gagner parce qu'on n'a pas d'éléments de rapport de force très précis. Et ça me semble extrêmement intéressant, parce qu'on voit bien l'intérêt, la force du mouvement ouvrier traditionnel et en quoi il peut devenir un agent révolutionnaire justement à cause de ces positions-là, les limites qui sont aussi liées. Inversement, même si on voit la violence de la dépossession aujourd'hui, de quelle manière la transformer en une force politique active, en une puissance politique, c'est très dur. Donc là, il y a une réflexion qui me semble assez féconde à avoir entre importance des divers phénomènes et potentialité politique des différents phénomènes. Et troisième piste qui est liée, c'est qu'il faut essayer de réfléchir. Ça, c'est l'approche de la régulation. À la suite de Gramsci, on s'est pensé non pas comment ça se fait que le capitalisme ne s'effondre pas, mais comment ça se fait que le capitalisme, en dépit des conflits extrêmement forts qui existent, continue à subsister. Et essentiellement, l'essentiel de la réflexion a été fait sur comment le conflit capital-travail a réussi à être régulé. Bon, mais là, il y a une autre question qui se pose avec l'accumulation par dépossession. On se pose la question de la régulation des conflits liés à l'accumulation par dépossession. En quoi il y a des arrangements institutionnels qui visent à permettre de faire tenir ces rapports qui autrement sont extrêmement conflictuels. Et inversement, comment on peut jouer là-dedans? Quelles sont les possibilités pour les mouvements anticapitalistes de saisir ces contradictions et de les déplacer? Bon, et dernier élément, mais qui rejoint un peu le tableau sur les éléments économiques, c'est que si on veut penser une conjoncture économique et sociale, il faut être capable de penser l'articulation des différentes modalités de l'accumulation. Il y a ces différents éléments qui sont présents, il y a différentes modalités de l'accumulation qui jouent un rôle économique, mais il y a aussi différentes modalités des résistances à l'accumulation et qui constituent une conjoncture politique. Voilà, j'ai déjà été trop long.
Très bien.
Je vous remercie.
Merci. Le débat est ouvert. Oui.
En fait, les théories critiques de la croissance ou décroissante, elles relèvent de deux grandes écoles. Une première école, c'est les antidéveloppementistes, qui voient la croissance comme une, et le développement plus généralement comme une croyance occidentale et qui vise à une domination culturelle des peuples de la périphérie. La deuxième école, c'est une école écologiste et qui va mettre l'accent sur le fait que la croissance capitaliste génère tant d'externalités écologiques négatives qu'elle doit être arrêtée. Dans les deux cas, ces deux écoles ne pensent pas tellement à la dynamique du capitalisme. Elles se situent extérieurement à lui, elles ne font pas le lien avec les rapports de classe. De ce point de vue-là, elles sont, de mon point de vue, assez pauvres théoriquement pour expliquer le monde dans lequel on vit et surtout comment on peut, quelles sont les contradictions qui émergent. L'accumulation par dépossession, au contraire, elle s'intègre bien dans une réflexion sur quelle est la dynamique du capitalisme et elle pointe ses contradictions. Et elle permet de faire le lien avec les théories de la décroissance parce qu'elle montre en quoi le développement contemporain du capitalisme n'est pas progressiste. N'est pas progressiste. Et alors, le lien entre bien-être et croissance, c'est une série d'indicateurs qui ont été faits. Donc, il y a toute une série. Il y a eu un débat très médiatisé sur les nouveaux indicateurs de richesse. Il y a une commission Stiglitz, Fitoussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans que Sarkozy a mis en place, qui a fait un rapport très, très riche, mais qui n'a eu aucun effet. Mais il y a, de manière bien plus lointaine, une série de travaux qui montrent que, jusque dans les années 80, si on prend une série d'indicateurs de bien-être, santé, insécurité, taux de suicide, etc., on a une montée en parallèle de la croissance et de ces indicateurs de bien-être jusqu'au début des années 80. Et depuis le début des années 80, les indicateurs de bien-être stagnent et diminuent, alors que la croissance continue à augmenter. Et là, c'est très intéressant pour saisir. S'il y a une logique de dépossession, c'est pas la logique productrice qui domine. Logiquement, les effets sur la population, moi je trouve qu'intuitivement on peut faire le lien avec l'idée que les effets sur la population sont délétères et ça se traduit dans la détérioration de ces indicateurs de bien-être. Donc c'est là où je pense qu'il y a une connexion qui peut être assez. Il y a moyen de faire dialoguer deux domaines qui n'arrivent pas à dialoguer autrement.
Oui.
Alors, Harvey dirait ça. Moi, je connais très peu la dimension, l'économie de la culture. Mais enfin, Harvey, ce qu'il pointerait, et à juste titre, c'est l'idée qu'il y a une forme d'appropriation de la diversité culturelle pour la rendre en format marchandisable et du coup sur laquelle on peut générer du profit, qui par ailleurs contribue à détruire cette diversité culturelle, puisque on génère via, je sais pas, le cinéma, la culture de masse, des choses qui tendent à uniformiser. Donc on pourrait, de ce point de vue-là, intégrer, avoir une logique d'accumulation par dépossession où des formes culturelles populaires diverses sont appropriées par l'industrie et ensuite redistribuées et contribuent à détruire cette diversité. Je pense que ça veut dire.
Oui. Du coup, il n'y a pas de valeur à répartir. Et c'est là où il y a quelque chose que moi j'ai envie que tu développes dans le débat. C'est comment ça devient de la valeur quelque chose qui avant n'en était pas, pas au sens du capitalisme.
Bah, l'idée, c'est que les mécanismes de répartition de la valeur sont. Sont le propre. Enfin, une fois que c'est intégré dans les circuits du capital, ça circule dans les circuits du capital, quoi. Donc c'est extrait, et à partir du moment où c'est extrait, ça se déplace ici. Et c'est ici que c'est ici que la répartition peut se faire. Mais ceci dit, t'as raison, on pourrait imaginer de manière externe au capitalisme des modes de répartition de la valeur du surplus. C'est par exemple tout ce qui est politique industrielle, qui peut mettre des contraintes à l'organisation à la manière dont se répartit cette valeur-là. Des mécanismes justement d'investissement public qui, indépendamment de la valeur de logique du capitalisme, vont décider de le répartir. Donc on peut avoir là une logique politique de répartition de la valeur qui peut être mise en place par l'État ou par les communs, par des communautés en fonction d'un certain nombre de règles. Donc on pourrait envisager ici de rajouter une logique politique industrielle, planification et communs.
Et c'est externe parce que ça vient du politique, en fait.
C'est externe dans la mesure où ça ne répond pas à la logique autonome de l'accumulation du capital.
La valeur était quand même distribuée d'une certaine manière parce qu'elle était distribuée par les forces, les forces géopolitiques, en fait. Celui qui détenait dans des banques de semences. Et à partir du moment qu'on a eu le brevet, c'est par une logique marchande que c'est réparti. Donc c'est pas exactement le même.
Oui.
C'est plutôt une phrase de remarque, une question. En fait, j'ai arrêté la dépossession, je vais penser à un exemple qui
permettre une certaine forme de, d'accumulation, et dans une logique plutôt externe, de d'expropriation de d'autres populations. Ça permet d'articuler différents types de dynamiques.
Ah non, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est typiquement un mouvement qui va de là vers là, quoi. Qui va de l'accumulation primitive vers la finance. C'est exact. Les exemples que vous donnez sont assez bons, et Harvard a été assez brillant sur ce terrain-là, puisqu'ils ont massivement eu des utilisations frauduleuses. Enfin, ils ont à la fois concilié le gouvernement russe pour les privatisations dans les années 90 et à la fois récupéré une des actifs qui privatisaient à des prix complètement bradés à cette époque-là. Et ils ont été condamnés pour ça, notamment Schleifer, André Schleifer, qui était un des économistes les plus en vue de l'institution. Mais vu qu'il fait partie des 5 économistes les plus cités dans le monde, l'institution a pris l'amende à laquelle il a été condamné à sa charge. Donc, voilà. Le phénomène qui existe, quoi. Le cœur du cœur avec la périphérie absolue. Ouais.
Oui.
J'ai une question aussi un peu de applicabilité du concept. Comment on pourrait l'appliquer, si on peut l'appliquer en fait, à l'exemple de la privatisation en Slovénie, au début des années 90, où ils ont fait la propriété sociale, le statut de propriété sociale des entreprises, s'est privatisé de manière que, disons, 40% des actions, 40% du capital de l'entreprise était distribué aux insiders, ça veut dire aux managers et aux ouvriers. Est-ce qu'ici, on peut parler de la dépossession, pas l'accumulation, pas la dépossession, du fait que les ouvriers ont reçu les actions qu'ils pouvaient soit investir, mais... Enfin, d'une manière, ils avaient les moyens de production, mais au long terme, on voit bien que ces moyens de production ne tiennent pas. Ça crée toute une élite managériale.
Non, mais ça, c'est un exemple extraordinaire de dépossession, ce qui s'est passé à l'Est en général, les mouvements de privatisation. Puisqu'effectivement, formellement, c'était Yeltsin avait le slogan au début des années 90, il disait « Ce que nous voulons, c'est... non pas un petit nombre de propriétaires, mais une économie avec des millions de propriétaires. » Bon, mais les millions de propriétaires, ils ont duré 6 mois. Ils ont duré 6 mois. Pourquoi ? En particulier, alors je connais moins bien l'exemple de la Slovénie, mais c'est que tous les gens qui ont reçu leur coupon, ils ne recevaient pas leur salaire, ou quasiment plus leur salaire, tellement la crise économique était forte, tellement c'était dévalué. Et donc, pour arriver simplement à survivre, ils ont tous vendu en quelques mois les coupons qu'ils avaient. Par ailleurs, ces coupons, ils ont été distribués de manière individuelle, sans aucune restriction. Ils pouvaient être vendus n'importe comment. Alors qu'une série de mouvements syndicaux, à l'époque, exigeaient que ce soit des collectifs de travailleurs qui détiennent ensemble ces actifs et qui, du coup, puissent décider d'en faire quelque chose. Donc là, on voit bien que les formes juridiques sont cruciales pour enclencher la dépossession. Hein, et que le fait que, formellement, ça soit attribué individuellement aux ouvriers n'est pas quelque chose qui leur donnait le pouvoir réel d'exercer avec cette propriété morcelée des droits de propriété effectifs collectivement. Mais c'est ça. C'est...
Effectivement, Marx, dans son chapitre sur l'accumulation primitive, de ce que j'ai retenu, il soulignait très bien le rôle de l'État, en fait. Je trouve ça important parce que le rôle, l'État pourrait être dans un sens vraiment à la service des gens, du peuple, ou à la service du capital. C'est un peu ce que je retiens de rappeler.
Par contre, je pense qu'il y a un truc où au moins on peut rendre justice à cette théorie de l'écologie radicale. Si on parle plutôt d'écologie politique, ça va être un peu dévoyé toute une année. Mais c'est la question de la technique, en fait. C'est que la dépossession, elle se fait aussi à mon... Enfin bon, c'est l'équilibre, par exemple, tu en parlais, mais il y en avait d'autres. La dépossession se fait aussi par la technique, où par la technique, en fait, ça devient un monopole radical, et que les rapports sociaux sont déterminés par la technique. Incapable de construire d'autres formes de rapports sociaux, parce que la technique arrive à reproduire et n'est pas un instrument neutre. Et Heinrich parlait vachement de ça par rapport sur pas mal d'éléments, mais notamment sur la voiture, où on se rend compte. compte que maintenant on n'arrive pas à concevoir d'autres modes de déplacement que la voiture, alors on se rend compte que avec l'énergie et les forces productives qui sont mises dedans, une voiture roule moins vite qu'un vélo. En fait, c'est un calcul assez marrant à regarder. Et du coup, en fait, moi, ce que je trouve aussi intéressant sur la dépossession, c'est de voir comment il y a une dépossession de la capacité créative, de la capacité en fait à envisager les rapports sociaux autrement.
Non, je trouve ça très intéressant, mais...
Ça pose la question sur les mouvements sociaux, comment faire des alternatives, en fait, comment les poser.
En fait, ça renvoie à la double dimension des luttes contre la dépossession. Il y a une dimension qui est économique, hein, qui est liée à la perte de l'accès à ces mauvaises substances, etc. Mais il y a également une autre dimension qui est... fermeture d'un potentiel, fermeture d'une capacité à organiser la vie différemment. Une dimension plus sociale, peut-être. Hein. C'est en tous les cas, comme ça que je vois le lien avec, par exemple, la commune russe ou l'indianisme. Hein. Et ce que vous dites là, c'est lorsqu'on se fait déposséder, non seulement on se prend de la richesse, mais en même temps, on perd un certain nombre de savoir-faire, d'organisation, de techniques hein, propres à la gestion, aux formes de gestion économique. Hors du capitalisme. Hein, c'est ce point de vue-là, tous les travaux sur les communs, hein, sur les gestions en forme de traditionnelle gestion des communs montrent bien ça. Hein, lorsqu'il y a une privatisation, il y a une destruction. Il y a non seulement une appropriation de richesses, mais il y a également une destruction de savoir-faire sur la manière de prendre en charge la reproduction d'un certain nombre de richesses. Oui.
Arrive dans le temps avant parce que enfin, quand on parle de forme inédite, quand je pense à la marchandisation de la biodiversité qui est en ce moment, c'est une tendance très, très forte, je ne vois pas exactement de différence par rapport à la terre, par exemple. Est-ce que c'est des catégories qui communiquent
Justement, c'est ça qui est bien dans le concept de Harvey, c'est son côté un peu fourre-tout qui permet de faire le lien entre ces choses-là. À mon avis, on a quand même intérêt à distinguer ce qui est de l'ordre de l'instauration, de la pénétration d'un ordre préalablement extérieur à la dynamique du capital, et le fait que, alors que le capitalisme est déjà établi dans un espace déjà établi, il réussisse à étendre sa sphère. Hein, donc c'est un peu ça l'intuition. Mais ça se défend. Le processus, dans les deux cas, il y a un processus qui a une dimension extra-économique. Et de ce point de vue-là, ça...
Parce que, par exemple, par rapport aux droits de propriété intellectuelle, on a tendance à croire que... Enfin, évidemment, c'est quelque chose qui devient très important dans les dernières décennies, mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis le 19e siècle. Et c'est une tendance lourde aussi dans l'Europe, par exemple, aux Pays-Bas.
C'est juste...
Oui. Oui.
Tiens, mais comme je ne connais pas très bien Marxisme, peut-être qu'il y a une autre. Mais
Mais ça, c'est très intéressant, c'est toute l'histoire du néolibéralisme. C'est l'idée que, dans les années 70, il y a une forme d'épuisement du keynésianisme hein, qui se traduit par une grande crise. Donc on a une très forte inflation, dans le même temps, on a des profits qui diminuent, et la réponse va être à l'émergence d'une nouvelle doctrine économique, le néolibéralisme, qui va d'abord se manifester par des politiques très dures sur le plan monétaire pour casser l'inflation, mais en fait, pour augmenter le chômage, et donc détériorer, affaiblir la position des salariés, et permettre, dans la période qui a suivi, une série d'attaques contre les droits sociaux. Donc ça, on a cette rupture qui a lieu autour de nous des années 70. 79, c'est à la fois l'élection de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, donc sur le plan politique, s'affirme cette doctrine, et à la fois la décision de la Federal Reserve américaine d'augmenter brutalement les taux d'intérêt, hein, qui va mettre un coup d'arrêt à l'économie mondiale très, très net, et qui va se traduire par très rapidement une accélération de l'augmentation du chômage. Donc, le néolibéralisme, à partir de ce moment-là, va émerger comme une doctrine qui prétend que les marchés ont un caractère autorégulateur, que partout l'État est moins efficace que les marchés, et c'est ce qui va justifier les privatisations, d'une part, et d'autre part, la libéralisation, c'est-à-dire tous les mécanismes qui contribuent à entraver le libre jeu de la concurrence. Et puis, troisièmement, c'est aussi ce qui va mettre un terme dans les pays du Sud à toutes les expériences, enfin, un certain nombre d'expériences d'industrialisation autonome, avec en conséquence des vagues de libéralisation extrêmement fortes sous l'effet de la dette. C'est la crise de la dette au début des années 80, et ce qui arrive juste après, c'est les plans d'ajustement structurel du Fonds international, de la Banque mondiale, où les pays qui... peut-être que je fais un tout petit développement là-dessus, puisque c'est intéressant pour voir comment ça se passe à la périphérie. On a en fait donc l'augmentation des taux d'intérêt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça implique quoi pour les pays en développement ? Ça implique d'abord une augmentation très forte de la charge de la dette, puisque la plupart du temps, leur dette, elle se renouvelait régulièrement. Donc lorsque les taux d'intérêt de la réserve fédérale américaine augmentent, très brutalement, ils doivent rembourser chaque mensualité des termes plus élevés. Mais ça a un deuxième effet, c'est que ça met un coup d'arrêt à l'économie mondiale, elle rentre en récession, et du coup, les prix des matières premières s'effondrent. Donc on a dans le même moment une augmentation très forte des taux d'intérêt et une baisse de leurs recettes en devises qui sont liées aux ventes de matières premières. C'est dans ce contexte-là qu'émerge la crise de la dette. Et cette crise de la dette, elle va avoir pour conséquence une série de ce qu'on appellerait aujourd'hui des plans de sauvetage, une intervention des institutions financières internationales qui vont apporter des prêts relais pour permettre aux États de faire face à leur banqueroute financière, mais avec des conditions extrêmement fortes. Et ces conditions vont du jour au lendemain changer par rapport à ce qui était les recommandations de la période précédente. Et ces conditions vont être donc des privatisations, une libéralisation des marchés, en particulier une ouverture extérieure, une ouverture aux investissements directs étrangers, puis des politiques macroéconomiques d'austérité. Et cette triptyque, libéralisation, stabilisation, politique macro d'austérité et privatisation, est le cœur de la doctrine néolibérale dans les pays de la périphérie, mais jusqu'à ici.
Est-ce que c'est un concept qui s'applique au cas de la Grèce aujourd'hui, selon toi ? Et si oui, dans quelle mesure et avec quelles limites, pour prolonger ce que tu disais à l'instant ?
Non, mais je pense, oui, que ça s'applique tout à fait dans le cas de la Grèce. Si vous voulez, on a le mécanisme... Là où la confusion qu'entretient Harvey entre les deux est intéressante, c'est qu'il y a l'idée que la finance est à l'origine ou est liée, joue un rôle crucial dans la dépossession. Alors comment, moi je trouve qu'il est le concept, il l'explique pas de manière très claire. Mais la façon Ben Fine, il propose un peu des manières de le reformuler de manière plus claire, et voilà la façon dont il l'explique. Il dit en gros, depuis les années 70, on a une grande crise de suraccumulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de capital par rapport aux opportunités rentables d'investir. Donc qu'est-ce qui se passe ? Dans ce contexte-là, se sont développés du capital fictif, du capital financier. C'est quoi du capital fictif ? C'est quoi du capital financier ? C'est des promesses de rendement futur. Lorsque vous détenez un titre, on vous promet que ça vaut tel argent, mais c'est pas comme détenir une entreprise ou détenir quelque chose, c'est une promesse. Bon. Et cette promesse-là doit être tenue dans le futur. Donc si vous voulez, la finance a été un moyen de décaler dans le temps l'incapacité à avoir des investissements rentables dans le court terme. La dépossession, c'est le moyen de tenir plus ou moins ces promesses. Et de ce point de vue-là, la crise grecque, s'intègre tout à fait là-dedans. La crise grecque, elle s'inscrit au lendemain de la crise financière, dans un moment donné où on a une dévalorisation brutale des actifs financiers, mais ils veulent arrêter la casse. La baudruche financière est gigantesque, il faut qu'elle se réduise encore beaucoup, mais pour limiter la réduction de cette baudruche financière, le moyen, c'est d'intensifier la dépossession. à intensifier la dépossession, c'est donc en particulier diminuer les, enfin privatiser davantage et diminuer le coût du travail. Puisque diminuer le coût du travail, ça revient, c'est la même chose que de libérer des intrants à bas prix venus du Sud, donc ça permet de soutenir la profitabilité. Donc ce lien-là, il est, moi je le trouve vraiment, je trouve que politiquement c'est très intéressant. Hein, ce lien, en gros, la dépossession, si on veut, c'est l'autre versant des promesses que doit tenir la finance en termes de valorisation.
Marchand de vieilles mines qui n'étaient pas exploitées. Il y a le plan Soleil, je crois qu'il s'appelle, qui vise à spécialiser la Grèce en production d'énergie renouvelable, solaire ou éolienne, et à exporter cette énergie, notamment vers l'Allemagne. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, et en plus en Grèce, il n'y a pas. Enfin, les mouvements écologistes ne sont peut-être pas assez forts et assez. Avec cette idée-là de comprendre ce qui se passe pour qu'on sache ce qui se passe, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Et une des premières lois, et des lois plus importantes qu'a fait passer le gouvernement précédent, ça a été la privatisation des forêts qui étaient publiques en Grèce jusqu'à présent, au communal, et du littoral. Bon, le littoral grec représente un tiers de l'Europe, donc c'est quelque chose de très important et jusqu'à présent par la Constitution. Donc voilà, ça va vraiment en même temps et ça vaut le coup de, en perspective de lutte, pour voir aussi comment les luttes sur la dépossession se construisent en même temps et comment l'un et l'autre peut se croiser avec les luttes sur l'exploitation de l'enjeu de chiffre très important. Et ça a lieu en fait. Hein. Les luttes existent, notamment autour du parc qui devrait être créé. Dans le territoire qui était occupé par l'ancien aéroport d'Athènes. Ce parc-là, maintenant, est promu pour. Est destiné à faire des casinos et des choses comme ça. Donc, on dit qu'il le promettait enfin quelque chose pour les gens, mais ça ne va pas être le cas pour le moment. Il y a une grosse lutte là-dessus.
D'autres questions? Du coup, peut-être sur les implications stratégiques de la dépossession. Est-ce que parler d'accumulation par la dépossession, ça implique que tous les dépossédés, d'une certaine manière, doivent être inclus dans les luttes à un titre égal? Ou est-ce que, d'une certaine manière, il y a chez Hervé et chez toi, la question se pose aussi à toi, une hiérarchisation des luttes, peut-être selon les conjonctures et selon les circonstances? Dans le marxisme, il y avait cette idée évidemment très forte que tu as rappelée, selon laquelle la classe ouvrière est quand même le sujet opérant dominant, pas exclusif, mais dominant, avec la paysannerie, avec d'autres, etc., mais quand même dominant. Est-ce que ça implique théoriquement un basculement dans ce qu'on pourrait appeler une sorte d'indifférenciation stratégique consistant à mettre, si ce n'est tout le monde sur un pied d'égalité, du moins considérer que par principe, il n'y a pas de sujet principal sur le moyen et sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce débat qui est évidemment une vaste question.
Pour Harvey, clairement, il y a cette idée. Il y a cette idée qu'il faut mettre l'accumulation par dépossession au centre, lui reconnaître une place tout à fait centrale dans la lutte des classes, et que c'est à partir des alliances entre les différents dépossédés et les exploités que doit se construire le mouvement des mouvements, qui est le mouvement alternationaliste du début des années 2000 dans son esprit. Donc pour lui, il y a clairement ça. Mais comme le mouvement ouvrier en lui-même n'est pas toujours progressiste, comme on pouvait rappeler tout à l'heure les tendances au social-impérialisme qui ont pu exister, de la même façon, les luttes contre la dépossession en elles-mêmes ne sont pas nécessairement progressistes. On peut avoir des luttes, je me souviens des luttes contre les... Je ne sais pas si vous vous souvenez des luttes sur les abeilles. C'était des luttes écologistes qui faisaient les liens entre des produits de Monsanto et les abeilles... Et la destruction des abeilles. En France, il y a beaucoup d'abeilles qui disparaissent parce qu'elles sont empoisonnées apparemment par des pesticides. Bon.
les gens qui portaient ces luttes, il y avait une partie des gens, c'était des gens qui étaient proches de l'extrême droite, c'était Philippe de Villiers avait fait un rôle. Bon. Donc il y a des secteurs qui ne seront pas progressistes et qui auront des revendications qui seront extrêmement locales, extrêmement sectorielles, même si par ailleurs il y a d'autres. Donc en soi, les luttes par des positions ne sont pas progressistes nécessairement. L'idée, c'est de les transformer en luttes progressistes. Hein. Et c'est ça que Harvey, sur lequel insiste, il dit qu'il faut bien montrer la dimension faire émerger du commun, de l'universel, dans ces luttes, histoire de construire cette alliance avec les luttes par exploitation. Donc ça serait peut-être le premier registre de réponse. Le deuxième registre de réponse, c'est que ça dépend effectivement des conjonctures. Hein. Ouais. Évidemment, dans une conjoncture comme celle qui est celle de la Grèce aujourd'hui, où on voit les salaires des fonctionnaires s'effondrer à grande vitesse, où on voit tout ce qui est du domaine national être bradé au capital multinational, la lutte contre la dépossession devient une question qui unifie politiquement une population à un moment donné. Donc voilà, à ce moment-là, c'est elle qui devient le lieu.
Donc, très largement, disons, avec voilà, une sorte de,
voilà,
de,
très largement.
De peuple qui est.
Parce que pour le coup, c'est aussi ce qui est commun à toute la nation. Hein, en l'occurrence, lorsqu'on parle des privatisations, des forêts, de la nature localement, c'est des choses qui sont finalement assez générales, où la protection sociale, c'est quelque chose qui traverse toute la population. De ce point de vue-là aussi, on a le lien avec Polanyi qui marche bien. Hein. L'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est la société dans son entier qui est déstabilisée par les mouvements de la marchandise. Et on retrouve ce que j'évoquais à la fin, l'idée qu'il y a un espèce de décalage entre les enjeux qui sont gigantesques et qui touchent, qui sont saisis par l'ensemble de la population, mais aussi la difficulté, contrairement aux luttes sur le lieu de travail, à faire émerger un sujet capable de le prendre en charge.
Parce qu'il n'y a pas forcément d'identité commune à tous ces dépossédés, c'est ça la difficulté. Alors ouais, pour la classe ouvrière, ce n'est pas donné d'avance, disons, il faut la construire, l'identité, mais peut-être qu'elle est plus facile à construire parce que les situations socio-économiques des uns et des autres sont proches.
Et alors puis parce que le rapport
élargi d'une certaine manière, et plus c'est difficile de construire une identité en commun. C'est, je crois, tout le problème qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, non seulement en Grèce, mais sans doute en France aussi et ailleurs. Enfin.
Moi, ça me fait penser très fortement au slogan des indignés. Nous sommes les 90%, nous sommes les 90%. Est-ce que ces 99% ne sont pas les possédés?
Ouais, non, c'est intéressant, puisqu'effectivement, l'accent mis par les indignés, c'est plutôt, a priori, la répartition des revenus. Puisque le slogan, il le tire de quoi? Il le tire d'une étude de Piketty et Saez sur les inégalités aux États-Unis, qui montre que l'essentiel de l'accroissement du revenu dans la période depuis les années 1970 s'est concentré dans les 1% du revenu. Bon. Donc, leur question, enfin, là d'où vient le chiffre, en tous les cas, c'est la répartition du revenu. Mais effectivement, on peut le réinterpréter. On peut le réinterpréter sur ce thème-là. Qu'est-ce qui a autorisé la création de richesse? On peut voir ça. Peut-être que je veux peut-être faire aussi rebondir sur la question d'avant, sur la difficulté à créer une identité et le fait que Harvey, à travers le concept d'accumulation par dépossession, il essaye quand même de dépasser la position négriste sur la production de richesse. Pourquoi? Parce qu'à la suite de Tronti, Negri et les négristes considèrent que l'ensemble de la richesse capitaliste, on peut pas vraiment dire où elle est créée. On peut pas vraiment dire où elle est créée. Pourquoi? Parce que les idées proviennent de lieux qui ne sont pas nécessairement sur le travail, qui vont être captés à tel endroit, parce que le travail reproductif est quelque chose qui joue un rôle essentiel et qui est mal mesuré. Donc la richesse est d'emblée sociale. Hein, et voilà. Du coup, il y a cette espèce de généralité, d'indiscrimination de la production de richesse, qui produit aussi un sujet indiscriminé général, qui est la multitude, mais qui est aussi sans consistance. L'idée avec l'accumulation par dépossession, en essayant de la retravailler, de la préciser, de la réarticuler, c'est de redonner un peu plus de précision à ces lieux de création de richesse et du coup aux sujets qui leur sont rattachés. Hein, essayer de déplacer le caractère indéterminé de la multitude, essayer d'arriver à des sujets plus précis. Mais bon, ça, selon la lunette que l'on prend, va avoir un degré de désagrégation qui peut être infini. Donc voilà, il y a un travail à faire, mais on peut peut-être arriver à classer un peu les différents types de dépossession, celles qui touchent directement la collectivité nationale, celles qui touchent tel ou tel type de secteur de manière prioritaire, celles qui sont davantage touchent l'humanité et pas la collectivité nationale en particulier, s'il s'agit des ressources génétiques ou naturelles.
parce que ceci, ça a un bon sens, c'est toujours les mêmes qu'on profite, et du coup, il y a un peu ce qui se passe dans la dépossession, c'est que c'est toujours les mêmes qui dépossèdent tout le monde, quoi. Et d'un côté, ils étaient paraît simple, c'est-à-dire que les autres mécanismes de domination dont tu n'as pas trop parlé, mais qui sont sans doute en partie ceux qui se font avoir dans la dépossession, qui avaient des positions de force en dehors du capitalisme, le capitalisme arrive, où soit il s'installe et qu'on marque le capitaliste, soit il ne s'installe pas et qu'il peut déposséder finalement à premier chef ceux qui étaient possédants avant, et qui là se retrouvent soit à s'assimiler comme capitaliste subalterne, soit.
Non, mais c'est bien ça la question, hein, c'est que les alliés contre la dépossession ne sont pas forcément des alliés toujours très fréquentables ou toujours très en soi nécessairement progressistes.
On arrête là. Encore une question peut-être. Bon, on va arrêter là. Grégoire, qui devait discuter avec les étudiants du bouquin à la fin de cette heure, propose de faire plutôt la discussion à la fin de l'heure prochaine. Il a dû partir là. Donc voilà. Donc après 19h, la semaine prochaine, il y aura une discussion sur le bouquin possible. Ok. Question. Merci.
C'était tombé.
Merci.